Alors, bonjour. Alors, c'est une communication que je présente avec deux autres collègues, Jean-François Loude de l'EPFL. Donc, je ne vous présente plus l'EPFL, on l'a vu tout à l'heure. Jean-François Loude est physicien retraité à l'EPFL. Puis Audrey Chambet, qui est notre cheville ouvrière pastèque en Bretagne, qui est la petite dame là-bas avec montre-toi. Donc dans cette communication, nous souhaitons présenter rapidement une démarche de sauvetage du patrimoine scientifique qui commence classiquement par une cueillette, j'appelle ça une cueillette, d'instruments dans les salles de travaux pratiques de physique à l'université de Rennes, à savoir c'est des électroaimants de laboratoire, qui continue pardon, par une tentative de détermination de ces appareils, donc la démarche classique, et par une reconstitution de leur histoire à travers celle du grand physicien du magnétisme, Pierre Weiss, et puis qui se prolonge, pour montrer qu'on n'est pas dans Radio Nostalgie, par une recherche sur l'évolution de ces électroaimants à travers du XXe siècle, et ce jusqu'à aujourd'hui. Alors, je peux cliquer, non, c'est ça? Voilà, magnifique. Dans le cadre de la mission PASTEC de la région Bretagne, nous avons démarré il y a quelques temps un inventaire des instruments de physique utilisés dans les travaux pratiques de Rennes. La cueillette fut florissante et pourrait être encore plus florissante, avec notamment le repérage de plusieurs électroéléments de laboratoire. Donc, je vous en montre quelques-uns. Vous voyez, ce n'est pas forcément d'une esthétique formidable. À quoi peut bien servir un électroaimant? Eh bien, comme le montre la figure, c'est un type d'aimant dans lequel le champ magnétique est produit par le passage d'un courant dans des bobines et qui disparaît avec celui-ci. Ça va donc être très couramment utilisé dans les laboratoires, dans les travaux pratiques, dès qu'on a besoin de champ magnétique. Alors, on va revenir sur les appareils. Donc voilà, première détermination. Alors, les premiers, assez faciles à déterminer, comme dit l'autre, il suffit de regarder les plaques. Donc, vous allez trouver. Le premier, c'est Jules Carpentier, un grand constructeur d'électroaimants, environ 1910. Les deux autres, c'est des appareils Baudouin. Alors, tous les physiciens qui sont dans la salle ont eu dans les mains des appareils Baudouin, souvent des pompes à vide. Hein. Donc là, on en retrouve assez souvent. Alors, on avait un problème avec les deux derniers, là. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Hein. Alors, celui de gauche est de petite taille. Alors, voilà, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Eh bien, c'est là que Pierre Weiss intervient. Pierre Weiss, donc, né en 1865 et mort en 1940, est un grand physicien français du magnétisme. Il a travaillé à Rennes, j'en parlais, entre 1895 et 1899, donc au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, pour les archivistes, là, il y a énormément de choses sur l'affaire Dreyfus. J'ai appris, moi, sur Rennes, des manifs antisémites, etc. Enfin, il y a des aspects historiques très intéressants. Et puis, sur l'aspect scientifique, donc, il a fait sa thèse sur la pyrrhotine en 1895, je crois. Alors, en même temps que deux autres monstres du magnétisme qui s'appellent Pierre Curie, parce que Pierre Curie a travaillé sur le magnétisme, pour ceux qui souvent l'ont oublié, et Aimé Cotton. Et tous trois étaient parisiens. Donc, il démarre après sa thèse, enfin, même pendant sa thèse. Il est à Rennes, maître de conférence 5 ans. Ensuite, il va à l'école polytechnique de Zurich. Et puis, il finit sa carrière à la faculté des sciences de Strasbourg jusqu'à 1940. Alors, j'en viens un peu à l'histoire des électroaimants. Donc, s'inspirant de l'Écossais Ewing, Pierre Weiss publie en 1898, dans la revue Éclairage électrique, un article décrivant un petit électroaimant. Alors, petit, moins de 60 kilos, parce qu'à l'époque c'était des trucs énormes, et possédant trois bobinages. C'est ce prototype que nous avons retrouvé lors de notre cueillette tout à l'heure, et qui a été commercialisé par des constructeurs renommés comme Ducretet et Roger ou Jules Carpentier. Alors, preuve aussi, cependant, pour montrer que le transfert de technologie dont on entend beaucoup parler en ce moment, entre la recherche, l'industrie, etc. Bon, bah, dès qu'on fouille un peu dans l'histoire, c'est quand même une banalité. Ça fait plus d'un siècle que ça se pratique. Mais les gens n'ont pas toujours beaucoup de mémoire. Donc voilà. Donc, alors, l'un des modèles Carpentier là, est conservé à la Fondation Sciences et Techniques à Florence. Paolo Breni l'a très bien décrit. Et l'autre modèle du Créteil, ben, j'en connais aucun qui existe, à ma connaissance. Alors, si cet électroaimant ne fut pas ni une réussite industrielle, ni une réussite commerciale, notre recherche très récente dans les archives d'un monstre aussi qui s'appelle Henri Becquerel. Ah voilà, il y a une image. Je savais que j'allais avoir une image qui allait sauter avec le PC. bon, c'est pas grave, vous verrez pas Henri Becquerel. Donc, Henri Becquerel publie aussi dans la revue L'éclairage électrique du 18 juin 1998 un article dans lequel eh bien, il indique qu'il a utilisé cet électroaimant. Probablement pour faire de l'effet Zeeman, peut-être pour les rayonnements ionisants. Alors, je vais vous lire le texte. Là. Ben, alors, je vous lis le texte quand même. Au cours de ces recherches, nous avons pu disposer d'un champ magnétique plus intense que celui de nos premières expériences, grâce à l'obligeance de M. Perveis, qui nous a prêté un électroaimant de son invention. Alors, c'est un électroaimant qui faisait 45 000 unités CGS, donc 4 Tesla. Hein. Donc voilà, donc là, ça montre que les appareils pouvaient se balader, hein, puisque je pense que l'appareil était à Rennes et qu'il a dû aller à Paris. Hein. Alors, quant au petit, là, on a trouvé un petit électroaimant aussi, à côté. Alors, celui-là était beaucoup plus petit, 40 cm environ, 2 kg. Hein. Et alors, donc là, je vous mets une photo d'Aimé Cotton. Il a été probablement construit par Pierre Weiss dans la même période. Alors, Aimé Cotton, donc, qui travaillait beaucoup avec Pierre Weiss, eh bien, là aussi, j'ai retrouvé un article dans l'éclairage électrique de 1896. Si vous regardez la photo en bas, hein, le petit électroaimant là, ici, là, eh bien, je trouve qu'il ressemble étrangement à l'autre. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'ils en ont fait chacun un exemplaire? Est-ce qu'il s'est baladé aussi? Donc ces deux physiciens normaliens étaient très très liés. Hein. Nous poursuivons actuellement une recherche sur les archives de Aimé Cotton qui sont bien conservées à l'École normale supérieure. Il y a un bon travail d'historien à faire là-dessus. Hein. Alors Pierre Weiss donc, quitte Rennes en 1902 pour aller à l'École polytechnique de Zurich. Et donc là, il continue ses recherches sur le magnétisme, constitue une équipe renommée, hein, notamment avec deux physiciens, Fox et Picard. Alors, en 1907, il construit un nouvel électroaimant original avec la société suisse Machine and Fabric Oerlikon. Hein, ce grand appareil qui faisait à peu près une tonne. Alors, l'originalité par rapport à ce qu'il y avait avant, c'était un appareil qui refroidit. Le problème des électroaimants, c'était... Il y avait de l'effet joule, comme on dit, ça chauffait beaucoup, donc le champ magnétique variait sans arrêt. Donc c'était un grand problème pour avoir des mesures fiables. Donc il crée un électroaimant refroidi à l'eau, donc stabilisé en température. Alors cet appareil qui était à l'ETH Zurich a été perdu. Alors c'est vraiment le modèle de référence de beaucoup d'électroaimants de laboratoire, celui-là. Alors, un autre, à la demande d'Aimé Cotton, à l'ENS, il construit aussi un deuxième électroaimant qui a une version un peu plus moderne, qui est perdu aussi. Et alors, en 1914, à la demande de Jean Becquerel, cette fois-ci, au muséum, il est livré un premier appareil utilisant cette fois-ci des pôles en ferrocobalt. C'est la première fois qui augmente le champ magnétique, hein, et qui sont refroidis directement à l'eau par des tubes de cuivre. Alors, celui-là, je l'ai retrouvé, il est au laboratoire de physique du CNRS à Bellevue. On parlera du gros électroaimant. Il est conservé. Moi, je pense que celui-là mériterait d'être classé. Enfin, on pourrait y avoir une discussion, mais au moins bien conservé. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est vraiment un des premiers de ce type-là. Alors, donc, des électroaimants de type Weiss, ben, ils vont être vendus dans le monde entier. Hein, fabriqué par la société genevoise, là, la SIP. Donc, là encore, gros transfert, recherche, industrie. Hein. Donc, certains sont. Il y en a un au musée de physique de l'UNIL, là, de Genève, donc Jean-François Loutre qui s'en occupe. Un autre qui était à Madrid, au laboratoire Blas Cabrera. Et puis, alors, il y en a plusieurs modèles. Hein. Là, le dernier modèle, c'est Harvard. Hein. Donc modèle 1910, qui a servi notamment au prix Nobel de physique Purcell en 1946. Alors, donc là, ce fut vraiment un succès industriel, hein, puisque ça a été construit par des grandes firmes. Il y a Baird & Tadlock à Londres ou Max Kohl en Allemagne qui en ont diffusé. Donc là, ça a été un grand. Alors, quelques exemples. Alors, donc en 1919, Pierre Weiss quitte Zurich, cette fois-ci, pour l'Université de Strasbourg. Donc là, il y a quelques images, où il crée un laboratoire dédié au magnétisme. Alors, le laboratoire est en bas. Et à ma connaissance, j'ai discuté avec les gens de Strasbourg, il ne reste rien, il ne reste pas d'électroaimant, pratiquement rien. Hein. Et alors, il va avoir une grande équipe, il va créer un institut du magnétisme vraiment très, très important. Et puis, il va avoir un élève que vous ne verrez pas, parce que la photo ne passe pas, c'est Louis Néel, à Grenoble, on ne va pas le présenter. Donc, il poursuit sa collaboration avec Aimé Cotton, hein, pour mener à bien le grand projet, le grand vraiment, parce que c'est le grand électroaimant de l'Académie des sciences. Conçu avant la Première Guerre mondiale, le projet de gros électroaimant d'Aimé Cotton et de Pierre Weiss va voir le jour en 1928. Donc ça a mis presque une bonne vingtaine d'années à sortir. Donc il pèse 120 tonnes, avec des bobines de 2 mètres de diamètre. Là, c'est en quelque sorte, pour moi, le début de la Big Science. On parlait de la Big Science tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il est classé, mais je ne voudrais pas le déplacer, moi. Oui. Utilisé jusqu'en 1973. Donc, il est conservé au laboratoire CNRS de Bellevue. Le CNRS cherche à le valoriser. J'ai vu d'ailleurs qu'il a fait il a été l'occasion de visite aux dernières journées du patrimoine. Sur le site, il y a un site internet où on le montre. Alors, donc dans les années 30, cette fois-ci, la Big Science va se développer. L'appareil de Siemens et Halske, alors 14 tonnes à Berlin. Vous voyez. Donc là, il y a une mode un peu pour les grands électros. Un autre à Uppsala, 37 tonnes. Hein, voilà. Et puis par contre, on va voir les grands scientifiques. Hein, on va retrouver. Là, on en a retrouvé un récemment au labo Huygens. Hein, encore un électroaimant de Weiss. Hein. Donc des électroaimants utilisés tout au long du XXe siècle. Voilà, donc là. Leiden, Enrico Fermi à Rome, un en Pologne, et puis aussi tout après, développement dans les laboratoires, on va voir les appareils Baudouin dans les années 60-70, et puis, vous voyez, ça se poursuit, hein, Fivet, 2013, celui du milieu, c'est Brucker, c'est une boîte européenne, hein, pour faire la RPE, et le dernier, hein, si vous tapez dans Google Weiss Electromagnet, eh bien, vous allez tomber sur Alibaba, une firme chinoise. Vous voyez, donc, voilà. Donc, comme vous le voyez sur cette dernière figure, aujourd'hui, eh bien, on utilise encore des petits électroaimants de laboratoire. Alors, j'ai oublié de parler de toute la nouvelle technologie à travers les supra. Hein, ça sortait un peu du cadre, hein, l'IRM, RMN, bon, tout ça qui est maintenant très bien connu. Hein. Donc, voilà, on a... plus d'une centaine d'années encore, eh bien, les gens utilisent de l'électroimant de Pierre Weiss sans peut-être le savoir. Hein. Donc là, je vous remercie de votre attention et puis merci aux gens qui sont contributeurs. Si vous regardiez bien, il y a une représentation internationale, c'est un travail qu'on essaye au niveau collectif. Merci de votre attention.